Pour vous, voici Page après page avec Gisèle, une rencontre intimiste avec un auteur.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, les ennuis, les chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, la jurée pour la vie. Et dès que je t'aperçois,
bienvenue dans Page après page. Peut-être vous avez lu Sabine Ledoux. C'est une grand-montoise qui nous fait l'honneur de venir dans notre modeste studio rivois. Sabine a travaillé 30 ans pour une société d'auteurs parisienne, et puis par abnégation peut-être, ou plus peut-être par humanité, elle a fait une reconversion professionnelle pour être animatrice auprès des personnes âgées. Et je suis particulièrement heureuse de recevoir cette auteure pour la première fois, pour la qualité de sa plume qui m'a subjuguée. Bonjour Sabine.
Bonjour Gisèle, bonjour à tous les auditeurs.
Vous nous avez choisi « La vie en rose », c'est la musique que nous venons d'écouter. C'est Édith Piaf que vous nous avez offert. Votre livre dit pourquoi, bien sûr, on retrouvera ce titre dans votre livre sans en dire trop. C'est vraiment le seul choix qui vous a poussé à nous faire écouter Édith Piaf ?
C'est-à-dire que cette chanson a vraiment, vraiment un sens profond dans cette histoire, puisqu'elle est symbolique aujourd'hui de la relation avec Christiane P.
Vous avez embrassé une carrière littéraire. Est-ce que cela vous vient de votre enfance ?
Là, vous entrez dans des questions personnelles, mais je vous réponds bien volontiers. J'ai une enfance pas toujours ni très facile ni très heureuse. Écrire a été pour moi une évidence dès le plus jeune âge. C'était l'évasion. C'était la possibilité de dire, au bout de ma plume, ce que je ne pouvais pas dire avec ma bouche.
Je le comprends. Est-ce que vous avez des habitudes quand vous voulez vous mettre à l'écriture ?
Non, je n'ai pas vraiment d'habitude. En fait, je suis quelqu'un qui sent les choses. Soit effectivement, j'ai envie, je me sens, soit je ne me sens pas. Vous me direz, c'est comme j'imagine la plupart des auteurs, il me faut juste plutôt un contexte, du silence, du bien-être, de la tranquillité, pour permettre de sortir les émotions telles que j'ai envie de les exprimer.
Oui. Nous allons ouvrir votre ouvrage. J'ai peur que ce ne soit pas très facile d'en parler parce qu'on est peut-être appelé à côtoyer votre livre, plus ou moins. Il y en a qui, malheureusement, le côtoient déjà depuis quelques années. Ce sujet, ce n'est pas que je ne veuille pas le dévoiler parce que c'est ce sujet-là, mais je ne voudrais pas le dévoiler auprès de nos auditeurs parce que c'est le principe déjà de page après page. Nous allons faire la connaissance de moi, Christiane P. C'est paru aux éditions Hugo Stern et c'est paru en 2022. J'ai envie de qualifier cette lecture de très facile. Comment est-ce que vous avez cette écriture aussi fluide, sans mots tarabiscotés pour parler de ce sujet-là? En fait, ça serait, j'ai envie de qualifier ça comme une écriture de tout un chacun. J'ai raison ou pas?
Bien sûr! Forcément, vous m'interviewez, vous avez forcément raison. Non, c'est une plaisanterie. C'est-à-dire, j'ai voulu aborder ce thème qui est très particulier d'une personne en déshérence du fait de problèmes de mémoire. Et j'ai souhaité, si vous voulez, aborder cette question-là, comment dirais-je, de façon interne, c'est-à-dire comme si c'était mon héroïne qui racontait sa propre histoire. J'ai pensé que c'était la meilleure façon d'aborder la chose. C'était aussi une façon originale. J'ignore si ça a déjà été fait auparavant sur ce thème-là. Étant une personne qui perd tous ses repères, mon héroïne ne pouvait parler que de manière très simple.
Et oui.
Ce n'était pas le lieu, effectivement, d'employer des grandes phrases tarabiscotées et de faire des figures de style. Je l'ai fait dans d'autres romans, mais pas celui-là.
Oui. Est-ce que c'est ça aussi le secret de l'auteur, de savoir rester à côté de son personnage, à côté du lecteur, lui parler, le guider, ou finalement vous voulez l'amener?
Exactement. Je crois qu'effectivement, l'auteur, dès le départ, sait ce qu'il va écrire. Le but du jeu, pour tenir le lecteur en haleine et pour le faire progresser au rythme que vous souhaitez le faire avancer, c'est effectivement de ne pas tout dire, de le guider doucement, de l'amener là où vous voulez, au fur et à mesure de l'histoire. Et puis c'est comme n'importe quel livre, si vous dites tout au début, quel intérêt, il n'y a plus de découverte derrière.
Tout à fait. Dès les premiers mots, vous accrochez le lecteur. Parce que c'est vrai que au début, j'ai dit « Ah, on rentre dans une intrigue policière ». Et puis, vous ne le lâchez plus, ce lecteur. C'est de l'appris, ça, d'attraper le lecteur?
C'est un parti pris.
D'accord.
C'est un parti pris. On a souvent, effectivement, des retours de lecture. Moi, je vois beaucoup d'amis lecteurs, grands lecteurs, c'est-à-dire qui lisent plusieurs livres par semaine, et qui me disent, moi, un livre, de toute façon, si à la troisième page, je ne suis pas accrochée, je le lâche. L'intérêt pour moi, c'est de faire immédiatement entrer mon lecteur dans le monde qui est celui du livre. Sans en dire trop, effectivement, mais tout de suite de le plonger pour qu'il se dise, mais de quoi elle parle? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Mais
oui.
Je ne comprends pas où elle veut en venir. C'est ce qui tient en haleine, effectivement, le lecteur, s'il est intéressé, évidemment. Tout à fait.
Parce que le fait de commencer comme une énigme, en fait, moi, c'est ce qui m'a interpellée de suite. À la première phrase, j'ai dit, mais qui est cette personne qui poursuit cette dame, cette personne? Vous voulez, en fait, que le lecteur s'engouffre avec vous dans ce tunnel et dans ce dédale où vous nous faites engouffrer dès la première phrase, en fait, c'est ça?
Tout à fait, oui, c'est ça, Gisèle. C'est-à-dire que je souhaite plonger immédiatement le lecteur dans l'univers de Christiane P.
Oui.
Qui perd tous ses repères, de mémoire, de tout ça. Elle est perdue avec elle-même. Elle perd aussi son lien au monde, tout ce qui l'entoure. Et elle interprète au travers de sa maladie tous les événements de son quotidien.
Et oui.
Et là, en l'occurrence, à la première page, elle est effectivement dans un magasin. Elle fait ses achats et elle est persuadée qu'une autre cliente veut la tuer. Ça commence comme ça. Et c'est un fait vécu.
C'est fort. Sabine nous entraîne dans ce sillage et on ne peut pas s'en sortir parce qu'on veut savoir. On croit qu'il faut bien repérer justement cette personne qui a la robe rouge parce qu'on est sûr que c'est elle la coupable, sans trop en dire qui est donc Christiane P. alias Mini.
Sans trop en dire, vous me posez une colle. C'est compliqué. Qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je ne peux pas dire?
Qui elle a été, par exemple, pourquoi pas?
Ça a été une femme extrêmement élégante, qui cousait elle-même tous ses vêtements, très distinguée, tout en étant d'une famille d'origine tout à fait modeste, toujours parfumée, discrète, gentille. Et puis cette maladie terrible qui touche beaucoup de gens aujourd'hui, c'est ce en quoi effectivement beaucoup de lecteurs me font un retour très personnel sur cette histoire. Tout à coup, donc, cette maladie terrible va faire de cette femme extraordinaire,
oui,
une personne en déshérence, une personne qui perd ses repères, une personne qui devient agressive, comment dire, qui ne sait plus comment s'habiller, qui n'a plus de repères d'hygiène, qui perd son rapport à son corps, son rapport aux autres et son rapport au monde, qui doute de tout, qui ne sait plus où elle va manger, où elle va dormir, qui s'inquiète de toute nouvelle personne qui l'approche et qui s'inquiète, qui s'affole quand elle se retrouve dans un environnement qu'elle ne connaît pas.
Vous avez raison, elle semble s'y reconnaître.
Oui, dans sa tête, c'est-à-dire qu'elle mélange aussi son passé et son présent. C'est typique de ces personnes atteintes de cette maladie. Effectivement, elle ne sait plus en quelle année on est. Elle a 75 ans dans l'histoire, mais elle croit toujours qu'elle en a 25.
Et oui.
Et elle agit comme si elle avait 25 ans.
Oui, c'est trop rigolo des fois.
Ah, c'est pas un livre triste. C'est pas un livre triste. Je ne l'ai pas voulu triste.
Oui.
Parce qu'effectivement, c'est la déchéance d'une personne malade. C'est jamais très drôle comme sujet. Malgré tout, elle nous a fait vivre des moments particulièrement cocasses, voire drôle, il faut le dire. Et beaucoup de lecteurs me disent, mais finalement, dans ce livre, on pleure parce que, évidemment, c'est triste.
Oui.
Mais qu'est-ce qu'on a pu rire aussi? En cela, je sais que j'ai atteint mon but. C'est comme ça que je voulais présenter la chose.
Mais c'est vrai que c'est bien fait. Marc, c'est le fils de Mini. Lui, il s'occupe bien de sa mère. C'est vrai que ça m'a... Oui, je sais que ça existe. Mais comme il est présenté, on comprend le garçon qu'il est. Mais elle, par contre, elle ne se laisse pas toujours mener par le bout du nez et elle ne s'en laisse surtout pas compter parce qu'elle a quand même des idées bien arrêtées. Évidemment, il y a cet accident. Personne ne se rend pas compte encore que justement, elle n'est plus Madame Christiane P.
C'est-à-dire que c'est une maladie qui vient progressivement.
Oui.
Tous les proches qui ont approché effectivement ce problème vous le diront. C'est pas tout d'un coup, du jour au lendemain, la personne malade qui perd le langage, qui perd la marche, qui perd effectivement la mémoire. Non, non, c'est très, très, très progressif. Et nous, effectivement, on s'est rendu compte que notre Mini était malade, puisque, en fait, c'est ma belle-mère. Hein. Ce livre est un hommage à ma belle-mère. Je tenais à lui rendre cette justice-là, de, effectivement, l'avoir accompagnée jusqu'au bout et... Au départ, c'est effectivement un accident, puisqu'elle brûle un feu rouge qu'elle n'a pas vu. Et ce feu rouge qu'elle n'a pas vu, tout à coup, va nous faire prendre conscience, à nous, la famille, que vraiment, là, il y a un gros, gros problème. On avait déjà remarqué un certain nombre de choses, mais vous savez, bon, à partir d'un certain âge, on perd un peu des fois la mémoire. Vous, moi, ça nous arrive, on est d'accord, tous les jours. On se rappelle, puis on a mis ses clés, on vient dans une pièce, on ne sait plus pourquoi. Il faut refaire le chemin en sens inverse pour se rappeler ce qu'on est venu faire.
C'est vrai.
Voilà. Donc, si vous voulez, au départ, c'était tout à fait normal, cohérent. Enfin, rien qui puisse nous alerter.
Oui.
Et puis, cet accident-là, c'est effectivement le début de quelque chose où vraiment, là, on remarque quelque chose d'anormal, c'est-à-dire qu'il va au-delà du simple oubli, si vous voulez.
Marc, il sait parler à sa mère et en même temps, elle le comprend quand il n'est pas content et puisqu'elle dit, elle emploie ce terme quand il a sa grosse voix. Est-ce qu'elle en a peur de Marc? Est-ce qu'elle se tient à carreau quand il a sa grosse voix?
Elle n'a pas peur de Marc. Marc, c'est son fils, c'est son fils unique, c'est son fils chéri, qui est le double de taille de Mini en hauteur et en largeur. Il est impressionnant. Mais c'est surtout qu'à partir d'un certain moment, quand la maladie, si vous voulez, progresse, elle finit par mélanger son père à elle, Mini, qui était un fermier de la campagne, aussi dur avec ses bêtes qu'avec les gens. C'était un homme relativement bourru, grossier, elle finit par mélanger, si vous voulez, toutes les personnes qui l'entourent.
Oui.
Elle ne sait plus si cet homme grand et massif, c'est son père, c'est son fils, c'est son grand-père, son amant. Ça devient très, très compliqué dans sa tête. Tout se mélange.
Oui.
C'est bien la difficulté avec les personnes atteintes de cette maladie. Les repères, surtout les repères récents, s'évaporent,
oui.
s'effilochent, se détériorent, se désagrègent. Et on a tendance à mélanger effectivement le passé et le présent.
Et oui.
Le problème, c'est, comme je vous le disais, quand on met des choses du passé dans le présent et qu'on ne fait plus le distinguo entre les époques, ça peut donner des choses assez rigolotes,
oui.
ça peut aussi donner des choses dramatiques.
Tout à fait. Même si on s'en doute un petit peu avant, c'est à partir du chapitre 9 que l'on voit que c'est la pagaille dans la tête de Christiane. Puisqu'elle se retrouve en prison alors qu'elle est simplement à l'hôpital, parce qu'elle voit des barreaux dans les fenêtres. Est-ce que ce sont ces petites choses qui finissent finalement par enfoncer aussi le patient ?
Ça, un médecin vous répondrait peut-être
oui,
mieux que moi. Mais effectivement, je pense qu'effectivement, à force de ne plus savoir du tout où on en est, on perd complètement pied. Mm-hmm. Effectivement, quand vous interprétez tout par le filtre de cette maladie qui finalement vous détériore l'image de la réalité, forcément, à un moment, plus on est perdu, plus on se perd.
Et oui.
C'est en tout cas l'expérience que j'en ai, moi, en tant que, bon, en tant qu'auteur du livre, d'accord, mais en tant que famille
oui.
qui a accompagné cette personne malade et aussi sous ma casquette d'animatrice en EHPAD. Ce sont des processus, si vous voulez, qui se ressemblent beaucoup.
Oui.
Ce mélange qui finit par faire une espèce de gloubi-boulga dans lequel on ne s'y retrouve plus.
Oui.
Imaginez un instant, Gisèle, vous ne savez plus qui vous êtes.
Et oui.
Comment vous vous appelez ? À l'endroit où vous êtes, mais c'est où ? Vous ne savez plus non plus où vous allez dormir, ce que vous allez manger. Qui sont tous ces gens qui vous entourent ? Mais vous paniquez. Faites le test une fois. Mettez-vous à sa place. Mettez-vous une fois dans sa peau, comme moi, j'ai essayé de le faire.
Oui.
Comment voulez-vous ne pas paniquer, ne pas avoir peur et ne pas finalement donner des réponses, évidemment fausses, puisqu'elles vous viennent souvent de votre expérience de vie et de votre passé, mais qui ne sont pas du tout la réalité ? D'où le regard, effectivement, des proches, des aidants, des soignants qui voient cette personne agir en dépit du bon sens. Et le premier réflexe, mais c'est pas possible, elle est complètement folle.
Mais oui.
Mais si vous vous mettez dans sa peau à elle, avec tous ces repères brûlés, cette vie dans laquelle elle se sent étrangère, ne paniqueriez-vous pas aussi ?
Aussi, j'en suis sûre. Quand le diagnostic tombe, est-ce que ce n'est pas plus difficile pour la famille que pour le patient ?
Ça, c'est une bonne question. Je pense que c'est une maladie, effectivement, qui détruit la personne en elle-même parce que malgré tout, dans ces moments d'errance et dans ces moments où elle est profondément perdue en elle-même et avec le monde qui l'entoure, elle a quand même des flashs de lucidité.
Oui.
Ce qui est terrible, parce qu'à partir du moment où elle se rend compte qu'elle est complètement, comment dirais-je, qu'elle vieillit, qu'elle se comporte mal, qu'elle fait des bêtises, qu'elle est agressive, qu'elle est méchante, elle a juste envie de mourir. À quoi ça sert finalement de vivre plus longtemps ? Mais quand on ne sait plus qui on est, quand on n'a plus du tout de rapport cohérent avec soi-même et avec les autres,
oui.
c'est une souffrance morale intense pour la personne malade quand elle a ces flashs de, on va dire, de lucidité.
Mm-hmm.
Par contre, pour les aidants, pour la famille à côté, c'est terrible. C'est terrible parce que cette famille qui voit la personne qu'elle aime perdre tout ce qui a fait qu'elle était elle-même, qu'on l'aimait telle qu'elle était, qui perd tout, qui devient une autre, qui devient une étrangère. C'est une souffrance de tous les instants. Il faut d'abord que la famille, effectivement, passe par l'acceptation de la maladie de son proche pour pouvoir avancer. À partir du moment où l'acceptation est faite, la plus grosse difficulté ensuite, c'est de suivre la personne dans ses repères à elle et non pas de la juger à l'aune de ce que nous sommes, nous. Je crois que c'est la plus grosse erreur qu'on puisse faire en tant que famille, c'est quelque part essayer de ramener la personne qui s'en va, hein, mm-hmm. tout doucement, dans le monde réel,
et
brutalement.
Oui. Oui.
Quand elle vous dit « Ah, oh, mais j'attends mon mari, il va venir me chercher, je l'attends », qui ne veut pas bouger de son banc parce qu'elle attend son mari persuadé qu'il va venir alors qu'il est mort et enterré depuis 10 ans.
Oui.
Il y a deux écoles. Certains psys, et ils ne sont pas tous d'accord, vous diront « Bon, on essaie de la ramener dans le monde présent. » en lui disant gentiment « Mais non, enfin, votre mari, vous savez bien qu'il est mort. Ça sert à rien de l'attendre là, il va jamais rentrer. »
C'est brutal.
C'est brutal. Et puis certaines personnes ne le supportent pas.
Oui.
Elles se mettent à pleurer. Elles tombent en dépression. Elles n'ont plus envie de rien, ni de manger, ni de se soigner. Elles entrent aussi dans de la violence, quelquefois. Elles se rebellent. Et puis, il y a les psys qui vous diront « Non, non, il faut les suivre dans leur maladie. » À savoir, si la personne vous dit « Oh là là, demain, on va escalader l'Himalaya. » Bon, bah, lui dire « Alors, qu'est-ce qu'on emmène? Qu'est-ce qu'on met dans le sac à dos? Qui on emmène dans la cordée ?» Ce sont deux points de vue. Personnellement, et si vous me permettez de donner mon point de vue à moi, on a un humble avis sur la question, je crois qu'il faut rester à un juste milieu entre les deux. Mmh. Et puis ça dépend du malade aussi. Je vous dis, en EHPAD, il y a des personnes auxquelles on pouvait dire « Mais non, voyons, Madame Chose, vous savez bien que monsieur n'est plus là, il ne va pas pouvoir venir vous chercher. Venez avec moi, on va boire un café. » Et puis il y en a d'autres auxquelles je disais, effectivement, « Ah oh, bon, allez, d'accord, mais peut-être qu'il est fatigué ce soir. » Il passera, non, il ne pourra pas passer ce soir. On reviendra demain. Venez avec moi. On va prendre le petit goûter. Vous allez voir, il y a de la crème au caramel. Vous adorez ça. Toujours, quelque part, se mettre à la portée de la personne pour l'accompagner au mieux sans la faire souffrir davantage.
Oui.
C'est la position qu'on a essayé d'adopter.
Je crois que c'est une des très bonnes positions, à mon avis. Pour en avoir côtoyé des personnes comme ça, c'est vrai que c'est pas mal.
C'est compliqué, c'est pas facile tous les jours, ça nécessite beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention.
Tout à fait.
Mais c'est en cela que je voulais écrire aussi ce livre, pour proposer un accompagnement de la personne qui soit un peu différent de ce que l'on voit dans la vie de tous les jours. Nous, on a essayé effectivement de suivre notre mini, quelquefois dans ses délires, beaucoup par l'humour.
Oui.
Parce que l'humour est une arme qui dédramatise tout. Ça ne change rien à la réalité, mais ça la rend simplement, quelquefois, plus facile à porter.
Tout à fait. Ça, je veux bien le croire. Vous avez donc travaillé auprès des personnes comme Mini. Veulent-elles toutes se sauver ou est-ce que chacune a son idée fixe? Parce que Mini, c'était la reine de la cavale. C'est rigolo.
Elle se carapatait beaucoup et par là même, elle se mettait en danger.
Et parce oui, tout à fait.
Elle n'hésitait pas effectivement à partir, là, en se carapatant toujours. C'était une petite femme toute menue, toute fine, très discrète. On la remarquait peu parce qu'elle ne faisait pas de grabuge. Enfin, en tout cas au début.
Oui.
Donc elle se sauvait souvent, mais ayant perdu cette notion de la réalité, donc cette notion du danger, cette notion du risque, ça ne lui faisait pas peur de partir sur la nationale en zigzaguant sur le bord de la route pour tomber les quatre fers en l'air dans le champ de blé, retrouvée par la gendarmerie qui avait été alertée par la directrice de l'EHPAD. Mon Dieu, notre Madame P, bon, qui s'appelle Madame Puy-Grenier, puisque je vends tous les secrets de famille, j'ai bien compris. Et qui venait la rechercher, qui rentrait toute penaude, effectivement, dans son EHPAD. D'où l'intérêt, enfin. La nécessité, en tout cas, de la mettre ensuite en espace fermé et sécurisé. Ce qu'on appelle aujourd'hui dans les EHPAD les cantous.
Oui.
Les fameuses zones réservées aux malades. Aux malades da. Bon, Gisèle m'a dit de ne pas dire le nom, je ne dis pas le nom. Personne n'a compris de quoi il s'agissait.
Exactement. nous allons faire une petite pause musicale. Vous avez choisi « C'est beau, la vie » de Jean Ferrat. Alors vraiment, c'est beau, la vie. Et justement, même Christiane P, finalement, elle a eu une belle vie. En tout cas, je le vois comme ça, moi. C'est un bel rythme que vous avez choisi. Est-ce que votre Mini l'aimait, cet rythme-là?
Si vous voulez, elle aimait beaucoup la musique.
D'accord.
Dans sa perte de mémoire sur la réalité immédiate, c'était terrible. Parce qu'elle ne se souvenait pas ce qu'elle avait mangé, elle ne se souvenait de rien, concrètement, dans sa vie de tous les jours. Mais, curieusement, la mémoire plus ancienne était bien restée ancrée. Et ça, c'est typique de tous ces malades-là.
C'est vrai, c'est vrai.
En fait, ils gardent bien ancrées en mémoire des choses de leur passé. Et notre Mini, notre Christiane, chantait beaucoup, beaucoup. C'est ainsi que j'ai compris, finalement, que c'était un moyen, même au cœur même de sa maladie, de rester en contact avec elle. Je connaissais pas mal de chansons de son répertoire, puisque mon ex-mari faisait aussi des animations à la guitare en maison de retraite, et puis parce que ma maman, il faut être honnête, écoutait aussi beaucoup ce genre de chansons du répertoire français. Tous ces refrains-là, je les connaissais. Quand je me suis aperçue de ça, qu'elle fredonnait encore, qu'il suffisait d'un air de musique pour la rendre heureuse, lui rendre le sourire, je me suis mise à fredonner avec elle. Ça nous a donné des parties incroyables, tant au niveau de l'émotion, on chantait notamment cette Vie en rose que j'ai choisie comme premier extrait, parce que c'est la chanson qu'on chantait les yeux dans les yeux. Mmh. On finissait en pleurant, l'une comme l'autre, mais c'est pas grave. Cet instant-là, échangé, les yeux dans les yeux, en cœur à cœur, la main dans la main, je sais qu'à ce moment-là, en dépit de tout, de ses douleurs, des nôtres, elle était avec moi, profondément, pleinement.
Oui.
Et de cette manière, on l'a accompagnée jusqu'au bout. Pour ces beaux lavis, et j'en termine parce que je ne veux pas être trop longue, pardon, je suis une vraie pipelette, Gisèle.
C'est pas grave.
Pour ces beaux lavis, c'est une chanson que je lui ai chantée la première fois quand elle nous a dit « Je veux mourir, je veux mourir, je ne veux plus vivre comme ça » et qu'elle nous a attrapé les poignets à Marc et à moi en nous disant « Je veux mourir, je ne veux pas que tu me vois dans cet état-là, ça va être de pire en pire, aide-moi à mourir. » J'ai chanté « C'est beau la vie ». Certaines de ces paroles-là me touchent encore en plein cœur aujourd'hui. Quand je l'écoute, je ne peux pas écouter cette chanson-là sans penser à elle et à ce moment-là, très précis.
Ben, on va l'écouter justement.
Merci Gisèle.
Le vent dans tes cheveux blonds, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà roux, et son cri par-dessus tout, que c'est beau la vie. Tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat, tout ce que j'ai cru trop vite a jamais perdu pour moi. Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter, et surtout pouvoir chanter, que c'est beau la vie. Le jazz ouvert dans la nuit, sa trompette qui nous suit dans une rue de Paris, que c'est beau la vie. La rouge fleur éclatée d'un néon qui fait trembler nos deux ombres étonnées, que c'est beau la vie. Tout ce que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonné, aujourd'hui me monte aux lèvres en cette fin de journée. Pouvoir encore partager ma jeunesse, mes idées, avec l'amour retrouvé, que c'est beau la vie. Pouvoir encore te parler, pouvoir encore t'embrasser, te le dire et le chanter, oui c'est beau, la vie.
Si vous venez de nous rejoindre, je suis en compagnie de Sabine Ledoux. Elle nous présente « Moi, Christiane P. », c'est paru aux éditions Hugo Stern en mars 2022. Vous êtes dans l'émission « Page après page ». Est-ce que la musique est une bonne aide justement pour ces patients, vous qui avez travaillé au milieu de ces patients? Personnellement, je sais que oui.
Vous avez raison, Gisèle, tout à fait. On dit, vous savez, je crois que ce n'est pas juste un adage, la musique adoucit les mœurs.
C'est vrai.
Quand vous ne pouvez plus communiquer sur rien avec une personne, il vous reste la musique, le regard, le contact physique, le toucher. Ces personnes qui se sentent finalement totalement étrangères à elles-mêmes et au monde qui les entoure, elles sont cruellement seules. Mmh. C'est ce qui les désespère. Beaucoup en plus, bon, ce ne fut pas notre cas, nous avons eu cette chance, je vous dis, de pouvoir accompagner notre mini jusqu'au bout. Parfois, les personnes en EHPAD n'ont pas de famille, vraiment, à proximité, ou en tout cas, elles n'ont pas de visite. Parce que, alors, on peut dire, ah ben oui, critiquer la famille, oui, oui, c'est facile tant qu'on n'y est pas.
Tout à fait.
Mais c'est très dur aussi, pour une famille, de voir ça, d'accepter ça. Beaucoup sont dans le déni. Et puis, il faut reconnaître aussi qu'à un certain stade de la maladie, la personne ne se rend plus compte, finalement, si elle a eu des visites, si elle n'en a pas eu. C'est vrai
qu'elle ne reconnaît pas ses
propres enfants, ne reconnaît quelquefois
enfants, son conjoint.
C'est vrai, c'est vrai. Et ça, c'est encore plus douloureux, je dirais, pour la famille, parce que tout d'un coup, la famille se sent aussi, elle-même, étrangère à cette personne qu'elle a pourtant beaucoup aimée.
Oui.
Effectivement, le toucher, c'est une reconnexion de la personne à son propre corps. C'est aussi quelque chose qui va au-delà des mots, au-delà de la tête. Le toucher, c'est de l'affectif pur, c'est de l'amour pur. Prendre la main d'une personne qui ne sait plus où elle est, qui se met à pleurer, qui est complètement décontenancée, qui veut se suicider, qui lui prendre la main, la regarder dans les yeux, lui dire qu'on l'aime, même si ce n'est pas une personne proche, et là je parle en tant qu'animatrice.
Oui.
Quand elle vous dit « personne ne m'aime », je veux mourir. Ça sert à quoi de continuer à vivre? Je suis toute seule. On m'a oubliée. Et de lui dire, non, non, moi je suis là. Je suis là pour vous. Allez, on y va. Venez avec moi. On va faire une petite promenade au soleil. Et que vous l'accompagnez main dans la main. Que vous n'oubliez pas de la regarder bien dans les yeux. Plutôt que de fuir son regard parce que sa maladie vous est insupportable. Je crois que c'est la plus belle chose qu'on puisse leur donner jusqu'au bout. Parce que jusqu'au bout, cette personne-là a des émotions, aussi malade soit-elle.
Oui.
Ça, elle le ressent.
Donc, Mini, c'est un petit drôle de personnage, de par sa maladie, bien sûr. Et elle est un petit peu méchante avec ses colocataires de l'EHPAD. Est-ce que ça aussi, c'est, comment dire, un degré de la maladie?
C'est ce que nous a expliqué le personnel soignant, effectivement. Novice que nous étions en la matière à l'époque, il nous a été expliqué qu'effectivement, l'agressivité était effectivement un symptôme de l'avancée de la maladie. Il ne faut pas oublier aussi que certains médicaments qu'on peut leur donner développent aussi de l'agressivité.
D'accord. D'accord.
C'est pour ça, effectivement, d'ailleurs, que quand cette agressivité n'est plus maîtrisable, on les bourre de calmants. Je ne jette la pierre à personne. Hein. Je l'ai écrit dans la quatrième de couverture du livre, ce livre n'est ni un pamphlet, ni un réquisitoire contre qui que ce soit. Il faut tout de même bien avouer que le système de santé aujourd'hui est dans un état pitoyable. Ces maisons de retraite sont bien souvent des maisons privées, bien qu'il y en ait des publics aussi. La nôtre, en l'occurrence, était des maisons privées. Et qu'elles sont donc administrées par des gestionnaires. Des investisseurs. Et que ces investisseurs-là, ces gestionnaires, pour eux, si vous voulez, l'intérêt, c'est de gagner de l'argent. Il faut faire rentrer du pognon. Quelque part, la santé devient un bien de consommation. Je ne veux pas pousser de coup de gueule, bien que j'ai des idées bien arrêtées sur la question. Mais
je peux le comprendre.
Voilà. Si vous voulez, nous, toutes les difficultés en dehors de la maladie de notre mini, ça a été effectivement avec l'institution. Mmh. Quand vous voyez que les soins sont manquants, sinon inexistants, ne serait-ce que, pardonnez-moi, je ne veux choquer personne, quand on attend qu'une personne ait souillé ses protections au point de sentir mauvais à l'autre bout de la salle, ça s'appelle de la maltraitance. Mmh. Il ne suffit pas pour moi d'afficher des belles affiches partout sur les murs des EHPAD, sur la bien-traitance. Oui, ah, c'est très 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 joli sur les murs. Il faut voir comment ça se passe dans le concret. Moi, ce qui m'a beaucoup touchée aussi, à la fois en tant que famille et puis aussi forcément en tant qu'animatrice par la suite, c'est que les soignants subissent les choses.
Oui.
quand quelque part vous en avez un qui est en vacances, l'autre qui est malade et que finalement c'est un seul et même soignant qui doit s'occuper de 6 personnes en moins d'une heure, c'est juste pas faisable.
Oui, oui, oui.
D'accord.
C'est pas logique, c'est vrai.
Et puis ce sont des personnes qu'il faut prendre avec ménagement.
Oui, oui.
Il leur faut du temps. C'est pas des jeunes de 20 ans qui sont en pleine forme, ce sont des personnes âgées, malades, qu'il ne faut pas brusquer.
Oui.
Et quelque part, cette obligation de devoir les brusquer parce que simplement le personnel est insuffisant en nombre, c'est simplement inadmissible.
Oui. D'ailleurs, vous relatez à un moment la douche froide, cet épisode de toilette justement où Mini se plaint que la douche est froide, qu'on lui racle la peau, qu'elle n'est pas sèche quand on la rhabille n'importe comment. Elle s'en plaint de ça, elle le subit. Et ça aussi, c'est encore l'enfoncer dans sa maladie, quelque part.
Tout à fait. En tout cas, c'est ne pas l'aider.
Oui.
Le seul problème, voyez-vous, dans ces cas-là, c'est que quand bien même la personne malade s'en plaindrait à sa famille, qui va la croire?
Eh oui, bien sûr.
Parce que forcément, c'est la parole de l'EHPAD contre la sienne.
Eh oui.
Et comme elle, il est communément admis qu'elle est complètement folle, elle peut dire n'importe quoi.
C'est
tant est encore qu'elle s'en rappelle au moment où elle voit sa famille.
Oui.
Il y a comme ça de la maltraitance, bien sûr. On a tendance à définir, enfin, pour le grand public, la maltraitance, c'est la personne qu'on roue de coups sur son lit.
Et non, pas que.
Ou qu'on tire par les cheveux. Mais vous avez raison, Gisèle, pas que.
Et oui.
La maltraitance, elle commence par un fait tout simple. Quand la personne vous dit « Je voudrais faire pipi, emmenez-moi aux toilettes. »
Eh oui.
« J'ai pas le temps. »
C'est vrai, tout à fait.
Le premier stade de maltraitance, il est là. Et c'est pas un choix des soignants. Quand vous avez effectivement des actionnaires qui vont préférer réduire le personnel, quitte à ne pas apporter le soin adéquat aux personnes en fin de vie qui sont là, qui sont dépendantes de tous et de toutes.
Oui, oui. Marc prend encore le week-end, il prend Mini chez lui. Et là, Mini, eh ben, il lui tarde de repartir. Mais quand elle est à l'EHPAD, elle voudrait repartir chez Marc. Finalement, la pauvre, elle ne sait plus où elle habite.
C'est le cas de le dire. C'est vrai Gisèle. C'est une grosse difficulté. À partir d'un certain stade de la maladie, pardonnez-moi, je bredouille.
C'est normal, je le comprends.
C'est gentil. C'est à la fois un peu l'émotion.
Oui, tout à fait, mais je le comprends.
Si vous voulez donc, à partir d'un certain stade de la maladie, même les médecins, les neurologues, les psychiatres conseillent qu'on perturbe les malades le moins possible. Or, il faut savoir qu'à ce stade, le moindre changement, c'est perturbant. Ne serait-ce que sortir dans les jardins de l'EHPAD, parce que souvent, quand on a de la chance en tout cas, un petit jardin est attenant...
au canto, oui.
Et qu'effectivement, on peut sortir, heureusement. C'est aussi prendre l'air, c'est aussi reprendre contact avec le vivant, avec la nature, même si c'est quelquefois un espace assez réduit. Rien que ça, Mini nous disait, je veux rentrer, j'ai peur. Non, Mini, t'as pas peur, regarde. Son fils lui disait, mais regarde. Non, regarde, ta chambre est là. On est tout près, la porte est là. Non, non, j'ai peur. La nuit l'angoissait beaucoup aussi. D'ailleurs, elle déambulait énormément la nuit.
C'est vrai.
Ah oui, oui,
et
oui.
Alors, c'est ça aussi qui fait le charme de votre livre. C'est que vous nous faites vivre, bien sûr, cette maladie qui est là, qui est présente, qui use tout le monde. Mais il y a aussi ce petit côté rigolo que vous mettez, parce que finalement, elle nous fait rire quand même.
Mais bien sûr. On a eu quelques fous rires avec elle. D'ailleurs, j'ai essayé de les relater au mieux, d'abord pour que l'histoire ne soit pas trop lourde. Et puis parce que vraiment, on a vécu avec elle aussi des moments. Mais qu'est-ce qu'on a pu rire? Qu'est-ce qu'elle nous a fait de ces pitreries qui, aujourd'hui encore, quelquefois, on se les remémore. Ce qui fait qu'aussi, alors qu'elle est partie, aujourd'hui, on peut se rappeler d'elle. Non seulement dans ces moments difficiles, mais aussi dans tout ce qu'on a partagé de cocasse et de drôle. Parce qu'on a pris, je vous dis, ce parti pris de ne pas dramatiser les choses et de rire de ce qui pouvait être encore drôle dans cette relation.
Oui. C'est vrai qu'elle a voulu escalader le grillage du canton.
Ah, tout à fait, tout à fait. Elle voulait s'évader. Elle était avec un petit monsieur, d'ailleurs, qu'elle prenait pour son mari. Bon, écoutez, tant mieux si quelque part... ce couple de petits nonagénaires s'est formé avec tendresse. Et lui était persuadé qu'il était dans la résistance et qu'il fallait qu'il s'évade du camp de concentration. Avec l'aide de notre mini, Fief et Chippy, ils avaient monté des tables l'une sur l'autre et puis des chaises et ils étaient montés sur, sur cet échafaudage de fortune pour escalader les grilles de sécurité, bien évidemment. Patatras, ils se sont tous à ramasser là-dedans, branle-bas de combat, tous les autres résidents se mettant à hurler, notre mini, les jupes par-dessus la tête, notre résistant, branle-bas de combat, va être fuyé par les nazis. Enfin bon, voilà. Donc c'était des moments, bien sûr.
Oui, pénibles mais rigolos à la fois.
Mais écoutez, il y a un moment, on ne peut pas pleurer de tout.
Oui.
Je pense que ça n'aide pas la personne non plus qui fait des bêtises, de tout dramatiser, de la disputer, de l'enguirlander. Qu'est-ce que ça va lui apporter ? Ça ne change rien.
Ah, tout à fait.
De toute façon, ce que vous lui dites, 10 minutes après, quand ce n'est pas 2 minutes après, elle ne s'en souvient pas.
Eh oui.
Donc, il faut rentrer dans le jeu. Donc, nous, ce qu'on faisait, c'est, bon, dire au petit monsieur, effectivement, que non, la guerre était finie, ça allait aller, on n'allait pas être fusillé. Et puis à notre mini, qu'il fallait qu'elle évite de prendre la poudre d'escampette à la moindre occasion, parce que voilà, ça pouvait être dangereux et que voilà, c'est.
Parce
mais elle nous en a fait.
En oui, plus, elle savait quand est-ce qu'elle pouvait faire la poudre d'escampette. Quand elle pistait le livreur au coin du portail, c'est trop rigolo, quoi.
Au début de sa maladie, c'est vrai. C'est-à-dire qu'elle attendait que personne ne la regarde. C'était encore au moment où elle était dans des maisons de retraite qui n'étaient pas des cantous sécurisés.
Oui.
C'est-à-dire que tout un chacun, avec un code, pouvait sortir. Sauf que n'ayant pas le code, évidemment, elle était coincée.
Et oui.
Elle avait bien remarqué du fin fond de sa maladie, assise sur son banc, l'air de ne pas y toucher au fin fond du jardin, que le livreur, tous les matins, amenait les légumes et les fruits aux cantinières qui s'occupaient de faire les repas. Et elle avait pigé que lui, effectivement, s'en allait, mais que la porte mettait un certain temps à se refermer.
Et oui.
C'est comme ça qu'elle s'est retrouvée dans le camion du livreur, au milieu des fraises, et qu'elle s'est retrouvée à manger des fraises et des poires, et puis qu'elle a hurlé au premier virage parce qu'elle s'est retrouvée
les quatre fers
en l'air dans les cagettes. Notre livreur qui pile en l'entendant hurler à l'arrière. Mais que se passe-t-il ? Mais que faites-vous là ? Vous m'emmenez en vacances ? Ah non, là, je vous ramène à l'EHPAD. Bon, des épisodes comme ça, il y en a eu beaucoup.
Oui.
Mais effectivement, celle-là, elle avait, si vous voulez, cette capacité d'observation encore au début de sa maladie.
Mmh.
Après, forcément, la maladie avançant, c'est par paliers. Vous savez comment ça fonctionne, c'est-à-dire que vous perdez une faculté, petit à petit, tout d'un coup, à chaque détour d'événement, une faculté s'en va. Donc, elle n'avait plus, après, si vous voulez, ce sens de l'observation. Et puis, c'est-à-dire que dans un endroit fermé, il lui était impossible de s'en aller.
Eh oui. Christiane dit tout coche. C'est presque le propre d'un enfant. Parce que l'enfant, il va vous dire, non, c'est pas du chocolat, c'est du chocolat. Mini, elle fait pareil. Elle dit tout coche et elle dit ce qu'elle pense. Et est-ce que ça peut déranger justement le personnel ? Et est-ce que le fait de ce dérangement, ça renfonce encore dans la maladie ?
D'un côté, ça peut être perturbant pour qui n'est pas prêt à faire face.
Oui.
Et il faut bien reconnaître qu'elle nous a pris nous-mêmes aussi quelquefois au dépourvu par son analyse des choses, par ses réflexions, par ses remarques. Elle nous a fait rire parfois, mon Dieu. Mais effectivement, ça peut désarçonner. Et en même temps, quelque part, ça nous permettait malgré tout, y compris quelquefois dans la difficulté d'avoir à lui répondre sur des problèmes très complexes, très douloureux, ça nous permettait malgré tout de savoir où elle en était, de savoir son état d'âme à l'instant T. C'est sûr que si elle se sentait pas bien, elle n'allait pas dire qu'elle allait bien. C'est aussi le propre de cette maladie que de remettre en fait les choses dans leur justesse. C'est-à-dire qu'on n'est plus en mesure de mentir, de cacher. Non, on parle sans filtre, si vous voulez. C'est aussi ça qu'on appelle retomber en enfance, c'est-à-dire avoir le même regard sur les choses que l'enfant, finalement, sans filtre et sans barrière.
Oui. 2019, 2020, c'est l'épidémie pour la planète entière. Et Christiane est abandonnée presque à son sort. Et finalement, c'est ça qui est le plus triste quelque part. Comme des milliers de personnes âgées, elle a attendu cette délivrance. Comment Marc et sa famille s'en sont relevés? Parce que c'est inévitable. Et en même temps, c'est il y a pas l'accompagnement, il y a rien. C'est le avant, après, point. Il y a pas de milieu.
Je vous dirai quelque chose, mais hors antenne, Gisèle.
D'accord.
C'est quelque chose d'assez intime.
D'accord.
Que je vous partagerai. Pardonnez-moi, chers auditeurs. Je ne peux pas tout dire ici.
Non, mais je comprends très bien, je comprends très bien.
Mais effectivement, comme beaucoup de personnes âgées au moment de ce fameux Covid, hélas, beaucoup de personnes âgées sont décédées sans soins, sans famille, seules, abandonnées à leur sort, je dirais presque, pour faire leur dernier grand voyage.
Tout à fait.
C'est dramatique, c'est quelque chose qui a meurtri des milliers de familles.
Oui. Je peux le comprendre.
Mais quelque part, les choses étaient comme ça. Nous n'avions pas à ce moment-là la main ni le choix sur ces choses-là.
Oui, je comprends.
De ce fait, effectivement, j'ai choisi que ma Mini, et peut-être cela sera-t-il sa dernière gloire, bien qu'elle ait été une femme modeste et discrète toute sa vie, que d'être un porte-drapeau dans son malheur et le témoin de la détresse, de la misère et de la souffrance de beaucoup de malades et de beaucoup de familles à cette époque-là.
Mmh.
Dans les années Covid où le gouvernement a pris des mesures drastiques pour limiter la propagation de l'épidémie.
Sabine, est-ce que c'est vous qui avez choisi la couverture de ce livre?
Oui, c'est moi.
C'est Elle une est très belle.
C'est gentil. C'est une statue existante. Alors, je ne veux pas dire de bêtises. Et bien sûr, avec ma mémoire aussi pleine de trous, la passoire qui me sert de tête, j'ai complètement oublié le nom du sculpteur. C'est une sculpture en métal qui est, je crois, mais alors pardonnez-moi sous toute réserve, en Suède.
D'accord.
Mais c'est vraiment, voilà.
Mais elle est très belle parce qu'elle image très bien le contenu du livre.
Exactement.
Et la qualité du papier, vous ne pouvez pas imaginer le plaisir que j'ai pris à tourner chaque page de ce livre. Et je trouve que c'est le plus
D'accord.
du livre.
Bon, écoutez, ça, vous savez quoi, Gisèle? Je vais le dire à mon éditeur. J'en profite pour lui faire un petit coucou ici. J'en profite aussi pour dire peut-être aux auteurs qui sont éventuellement à l'écoute de cette émission, de cette interview, qu'un éditeur, un vrai, publie gratuitement.
C'est vrai, on me l'a déjà dit.
Sans rien demander à l'auteur. À partir du moment où la personne qui se dit éditeur et qui vous demande de l'argent, qui vous propose ce qu'on appelle pudiquement un contrat participatif, c'est pas un éditeur, que les choses soient dites et bien dites, c'est ou un prestataire de service ou un imprimeur. Merci donc aux éditions Hugo Stern d'avoir pris le risque de publier cet ouvrage inconnu.
Heureusement qu'il l'a fait. Heureusement qu'il l'a fait, parce qu'on serait passé à côté d'une grande perle.
Ah, c'est gentil. Vous êtes gentille, Gisèle. Merci beaucoup.
Non, mais c'est mon ressenti. Et pour tout vous dire, j'ai lu ce livre en 5 heures.
Ah oui?
Vous imaginez 5 heures pour lire un livre, c'est... Peut-être que les grands lecteurs vont dire, non, mais elle déraille, quoi, 5 heures, c'est un livre que je lis en 10 minutes. Mais pour comprendre, pour aller au fond des choses, je trouve que pour moi, pour ma petite personne que je suis, 5 heures, c'est vraiment pas beaucoup. Mais vous ne pouvez pas imaginer le bonheur que j'ai eu à lire ce livre, quoi. Mais j'ai dit, c'est un auteur qui écrit comme on pense, comme on lit dans la nature. C'est magnifique, c'est magnifique, juste magnifique.
Alors, ce qui me fait ce qui me fait très plaisir, c'est votre ressenti. C'est l'émotion que je sens en vous quand vous me relatez, à l'antenne ou hors antenne d'ailleurs, votre ressenti. Vos impressions. Je crois que quand un livre touche à ce point une personne, c'est qu'elle lui parle de sa propre histoire. Si en tant que lecteur, vous avez été à ce point accroché au point de ne pas lâcher le livre avant la fin, au-delà de vos compliments et de la qualité d'écriture que vous me prêtez, je pense que c'est surtout parce que cette histoire vous touche, vous, en tant que lectrice, comme d'autres lecteurs d'ailleurs, au plus profond de la personne que vous êtes, des souffrances que vous avez vous-même peut-être traversées, qui pourraient être relativement similaires à celles que Marc et Sandrine ont traversées aux côtés de Minnie.
Oui. Même c'est un livre tellement facile à lire, mais chers auditeurs, mais achetez le livre, quoi. Achetez le livre, commandez-le chez votre libraire, il est trop bien, quoi, il est trop bien. Et en même temps, c'est une approche de cette maladie, c'est une autre approche et c'est une approche qui fait comprendre beaucoup de choses, quoi.
J'ai voulu, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, pardonnez-moi si je radote encore. Mais bon, effectivement, j'ai souhaité présenter ce livre à la première personne du singulier,
oui, oui.
Comme si effectivement, c'était Minnie qui racontait sa propre histoire. Oui. Ça me permettait effectivement de mettre le lecteur directement, entre guillemets, dans le bain, et puis d'essayer de voir les choses par ses yeux à elle.
Oui.
Si on essaye de se mettre à sa place dans sa tête, effectivement, on comprend certains de ses comportements.
Oui. Mm-hmm.
Je tenais vraiment à lui donner la parole,
oui,
en fait.
Et vous avez bien fait. Vous avez bien fait, franchement. Sabine, je vous remercie de m'avoir confié cette lecture parce que toutes les bonnes choses ont une fin, hélas. Et donc, c'est un très beau livre. Des pages douces comme votre écriture, finalement. Les pages et l'écriture sont d'une douceur extrême. Ça touche au cœur, c'est vrai. Mais même, je pense que ça touche au cœur tout le monde, qu'on ait vécu ou pas. Parce que vous savez le dire, vous avez su mettre des mots comme il faut, quand il faut. Et ces mots aussi donnent envie de protéger justement nos anciens, il faut le dire. C'est vrai que tour à tour, ça émeut, ça révolte, ça effraie aussi, ça fait vraiment très peur parce qu'on se dit, mince, quand ça va m'arriver à moi, je n'aurai plus de vie à moi, je vais vivre autre chose, mais je ne saurai même pas que je vis. En tout cas, c'est mon ressenti personnel à la lecture de vos pages. Merci pour cette écriture d'amour à votre Minnie.
Merci Gisèle. Je vous sens tout émue. Je voulais juste rajouter un mot. Je termine la quatrième de couverture, si vous me permettez de lire cette dernière ligne. Parce qu'il faut dire et faire savoir, ne pas se taire. Parce qu'un jour, peut-être, nous serons tous Christiane P.
Christiane P. paru aux éditions Hugo Stern, c'est en mars 2022 que vous avez sorti ce livre. Comme je disais, il faut le commander chez son propre libraire ou tout simplement auprès des éditions Hugo Stern. Et nous allons devoir nous quitter déjà, j'allais dire Christiane, pardonnez-moi, Sabine.
Ça veut dire que vous êtes vraiment immergée dans ce que vous avez lu.
Ah oui, tout à fait. Pour cet hommage final à Minnie, vous nous proposez quoi ?
Oui, l'Adagio d'Albinoni. J'aime beaucoup cette musique sensible, délicate, douce, qui évoque précisément pour moi la fin de vie.
Mmh.
Comme une feuille, vous savez, tombée de son arbre.
Tout à fait.
Qui tournoie délicatement jusqu'à se poser à terre pour finir sa vie.
Mmh.
C'est un peu l'image que j'ai de la fin de vie de notre Minnie à nous.
Oui.
Je voulais aussi en profiter, si vous permettez, Gisèle, si j'ai encore une minute,
oui,
pour remercier beaucoup Radio Galaxie. C'est une petite, effectivement, radio du sud toulousain. Mais quelque part, quelle joie, quel plaisir pour un auteur inconnu publié par une petite maison d'édition que d'avoir, effectivement, cette audience-là, cette parole pendant un certain temps. Surtout quand c'est moi qui parle, c'est toujours un peu long. Je ne sais pas pourquoi. Mais merci infiniment de me faire cette publicité déjà, d'avoir pris le temps de m'écouter et m'avoir donné la chance à moi et à ma Minnie.
Oui, non, mais c'est avec un grand plaisir. C'est surtout moi qui vous remercie parce que vous avez fait de la route pour être là présente aujourd'hui dans notre studio Rivoy. Et c'est un grand plaisir de vous y accueillir. Merci beaucoup. On écoute l'Adagio et je vous souhaite un excellent retour. Et puis alors, je vous souhaite d'écrire d'autres livres.
Merci Gisèle, nous en reparlerons.
À bientôt Sabine.
Au revoir, merci bien.
C'était Page après page, une rencontre intimiste avec un auteur. Ooh, 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 ooh.